Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Brun.
Nous sommes à Marrakech à l'occasion de la COP22, la 22e conférence des Nations Unies sur le climat, un an après l'accord de Paris où les États se sont collectivement engagés à lutter contre les changements climatiques. Cette conférence devait être celle de l'action. Et en effet, plus de 77 coalitions étaient présentes, des États, des entreprises, des collectivités locales, des banques et des ONG, réunies autour de thèmes aussi variés que l'agriculture, les énergies renouvelables, l'habitat ou les transports. Et c'est cette dynamique qui va changer nos vies et nous permettre, même si nous en sommes encore loin, d'agir à l'échelle de l'humanité pour lutter efficacement contre les changements climatiques.
C'est pas du vent sur RFI.
Les multinationales font partie du problème, mais leur influence est tellement importante qu'elles font aussi partie de la solution. Une entreprise de la taille d'Unilever, par exemple, a un impact plus puissant que n'importe quel gouvernement, comme nous l'explique son PDG, Paul Polman.
Unilever, c'est une société qui a commencé en 1930. C'est dans le domaine d'alimentation, mais aussi le produit de beauté, avec les produits comme Dove ou comme Lipton ou Sunsilk ou Omo, mais aussi les produits comme Knorr et beaucoup d'autres. On a 175 000 personnes qui travaillent pour nous dans le monde entier, à peu près 400 marques dans 190 pays.
Pour quel chiffre d'affaires ?
On a un chiffre d'affaires plus ou moins de 55 000 milliards d'euros.
Votre service de communication dit que vous avez 2 milliards de consommateurs.
Non, 2 milliards de consommateurs, on a chaque jour qui utilisent nos produits, mais on est dans plus ou moins 7 sur 10 maisons dans le monde entier.
Quand on est présent dans 7 familles sur 10 dans le monde, on a une vraie responsabilité. Depuis 2010, Unilever a lancé un plan pour un mode de vie durable. En quoi consiste ce plan ?
On a dit, si on touche tellement de personnes, on a une liberté de le faire, ça c'est très bien, mais avec cette liberté, ça vient aussi une responsabilité. Et on a pensé très fort de dire qu'est-ce qu'on peut faire pour utiliser cette force de contact, si vous voulez, qui est plus que tous les gouvernements dans le monde entier. Il n'y a pas un gouvernement qui peut toucher à 2 milliards de personnes chaque jour. Donc on l'utilise pour une force de changement positif pour le monde. Ça veut dire un changement d'une direction d'économie durable qui est absolument un impératif et au même temps d'améliorer aussi l'aspect social. On a vu dans le monde qu'on a eu une croissance énorme depuis les derniers 30 ans, 40 ans. Moins de personnes en pauvreté, plus de personnes en éducation, la qualité de vie a augmenté, mais on l'avait d'une manière que ça a donné la pression sur la limite planétaire. Un exemple de ça, c'est le changement du climat. Donc nous avons dit, comme société, on peut seulement fonctionner à long terme si on a un impact positif dans le monde.
Et là, vous avez beaucoup de travail puisque vous avez été notamment pointé du doigt par les ONG à cause de la déforestation occasionnée par votre utilisation de l'huile de palme. Vous êtes l'un des plus grands acheteurs au monde de l'huile de palme. Or, on sait que la déforestation émet beaucoup de gaz à effet de serre.
Oui, exactement. La croissance du population dans le monde entier et le changement d'habitude de manger, on prend plus de viande par exemple, fait que 60% du déforestation qu'on voit dans le monde entier, c'est à cause de la croissance du demande de l'alimentation. Dans les prochaines 30-40 ans, on doit produire 80% plus d'alimentation qu'on fait aujourd'hui. Donc nous avons, comme société, il y a déjà longtemps fait le compromis de ne pas acheter les produits qui viennent de déforestation. Et on a obtenu cet compromis déjà il y a 2 ans. Et on est en train d'utiliser notre taille et notre présence dans le monde entier de changer l'industrie entièrement, parce qu'on voit aussi que si ça continue, les forêts, ce sont les poumons pour le monde. C'est 12 millions de hectares qui sont perdus chaque année. Donc, tous nos plantages de thé avec les produits Lipton ou en France, éléphant, tous nos produits de soya qu'on utilise ou l'olive de pomme, ça se fait d'une manière sustainable. Donc, on a travaillé ensemble avec les ONG ou le gouvernement d'Indonésie ou de Malaisie ou d'autres pays où on achète ces produits.
Dans le plan Unilever pour un mode de vie durable, vous avez aussi annoncé de fortes ambitions de réduction d'émissions de gaz à effet de serre et notamment le fait d'être positif en carbone. Vous allez nous expliquer ce que ça veut dire d'ici 2030. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ?
Depuis 1995, on a réduit 65%. Pour nous, ça veut dire que toutes nos usines ou les bureaux sont d'énergie verte. Donc, notre objectif, ce n'est pas de carbone. On est presque là dans notre système parce que le carbone, c'est le pire, c'est le plus mauvais. Et toute l'énergie renouvelable dans nos usines et dans nos bureaux. On est maintenant arrivé à peu près à 80% de ça et on a dit d'ici à 2030, on ne va pas seulement être zéro effect dans notre opération, mais on va produire d'énergie verte en surplus qu'on donne à d'autres sociétés ou à la maison pour l'utiliser. Et ça, c'est l'aspect positif. Donc, c'est ça qui est important maintenant, qu'on travaille avec le gouvernement, parce qu'on a besoin de faire tout ça ensemble. Et la force de COP21 à Paris ou la COP22 ici à Marrakech, c'est que les gens ont compris que le gouvernement ne peut pas faire ça tout seul, la société privée ne peut pas faire ça tout seul non plus. On doit travailler ensemble pour y arriver. Et c'est exactement ce dont on est en train de discuter.
Donc, avec votre process industriel, vous allez diminuer votre impact, mais vous voulez aussi utiliser vos produits pour faire diminuer les impacts des consommateurs. Alors, par exemple, vous réfléchissez à faire des lessives, des déodorants qui soient moins impactants. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples ?
Par exemple, c'est le déodorant compressé qui utilise la moitié du emballage et qui ont la même durée. Et c'est l'équivalent de 5 millions de voitures dans le monde entier, 24 heures, qu'on est en train de réduire. Sur les détergents, les produits comme Sunlight ou Omo, on était la première de sortir du phosphate, ou les produits plus concentrés, qu'on gagne au transport et moins de l'essence et tout, mais aussi qu'on peut laver ça à la température plus basse, par exemple. On a les shampoings qu'on peut utiliser dans beaucoup de pays, surtout de pays développement, les shampoings sans utilisant de l'eau. Donc, dans toutes les choses qu'on fait avec nos produits, et surtout, ce n'est pas parfait, c'est pas qu'on dit ça, c'est un voyage qu'on doit faire, mais dans tous nos produits, on essaye d'être chaque jour mieux et surtout de donner l'exemple à l'industrie.
C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI.
Cette semaine, 43 organisations patronales ont signé à l'initiative de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc la déclaration de Marrakech, dans laquelle elles rappellent leur engagement pour la transition vers une économie décarbonée. 196 entreprises de la coalition Women Business ont aussi rejoint la plateforme de nombreux acteurs engagés dans une trajectoire bas carbone d'ici 2050. Le groupe des entreprises du Prince de Galles pour le climat, qui rassemble 24 multinationales employant 2 millions de salariés dans le monde, est aussi très mobilisé, comme nous l'explique Philippe Joubert, son président.
Ces entreprises sont toutes extrêmement engagées à plusieurs niveaux. D'abord, à avoir eux-mêmes un comportement exemplaire, et donc à diminuer leur propre empreinte carbone, par exemple, ou empreinte eau, pour certaines, mais aussi ajuster leur stratégie aux nouveaux enjeux. Je pense que c'est ça qui est effectivement beaucoup plus important, parce que là, elles amènent non seulement le levier de leur chaîne fournisseur, par exemple, d'autre part, ils s'engagent aussi à fournir des produits ou des services qui permettent à l'utilisateur d'avoir un comportement vertueux.
Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples ?
Exemple, Philips, elle est nouvelle lampe non plus à incandescence, par exemple. Vous avez Interface, qui est un des leaders des moquettes, qui fait donc des produits à pratiquement zéro impact et qui sont recyclables. Vous avez Coca-Cola avec sa fameuse action sur l'empreinte eau, qui s'engage à remettre l'eau qu'ils eux-mêmes ou leur embouteilleur utilisent.
En même temps, ils avaient du travail Coca-Cola, parce que en termes d'impact à l'échelle mondiale, on peut pas dire que pendant des années, ça a été positif.
Ça me réjouit plutôt, c'est-à-dire que c'est plutôt eux que j'ai envie de voir. C'est plutôt les gens qui ont beaucoup de progrès à faire, parce que les gens qui ont déjà fait le chemin, bon, ce qui m'intéresse, c'est que c'est des gens qui, effectivement, dans leur business model, avaient des difficultés, mais grâce à leurs efforts et probablement une nouvelle vision stratégique de leurs dirigeants, arrivent à s'engager sur un nouveau chemin.
Depuis la COP21, la place des entreprises a changé dans les négociations internationales sur le climat et dans la dynamique en général.
Oui, elle a changé. Parce que, premièrement, elles étaient à la table pour la première fois. Elles ont pu donner leur avis. Elles ont pu influencer les actions des gouvernements pour plus d'efficacité. Et deuxièmement, le gouvernement, d'abord, les a chargées d'une certaine responsabilité. Vous le voyez tous les jours ici au Maroc. On contrôle que les engagements qu'ils ont pris sont bien tenus ou sont bien en train d'être tenus. Mais aussi, on a reconnu que seule l'action de ce monde nous permettra d'arriver au résultat.
Enfin, il y a aussi l'action des citoyens.
Alors l'action des citoyens agit sur les entreprises, c'est très important ce que vous venez de dire. Évidemment que les entreprises sont influencées par deux choses, d'abord par les règlements et aussi par le business case, c'est-à-dire à qui offrent-ils leurs produits et leurs éléments. Et là, les citoyens sont fondamentaux pour orienter la demande de ces entreprises.
Alors on peut comprendre l'intérêt de la mobilisation des entreprises, par exemple avec cet appel qui a été lancé par des entreprises américaines cette semaine.
L'appel des entreprises américaines cette semaine, je crois que c'est 350 entreprises qui ont signé spontanément un document rappelant que les négociations de Paris et la direction donnée à Paris, confirmée à Marrakech, est fondamentale pour le business. Parce que je pense que les gens ont compris qu'on ne peut pas avoir du succès, on ne peut pas faire du business dans un monde qui s'effondre. C'est aussi basique que ça. Après, ils ont bien compris que leur intérêt, parce que c'est des gens qui sont en général en avance sur la plupart des autres, que leur intérêt était de mettre le curseur le plus loin possible pour que leur affaire soit ce qu'on appelle une barrière à l'entrée de plus en plus élevée.
Merci beaucoup.
Je vous en prie.
Qui émet le plus de gaz à effet de serre. La consommation des énergies fossiles, charbon, gaz et pétrole est responsable des deux tiers de nos émissions. Pour le continent africain, le développement des énergies renouvelables est désormais une évidence, comme l'a été celui du téléphone portable. Encore faut-il trouver des solutions adaptées à chaque contexte. Dans le sud du Mali, dans la région de Koutiala, le GERES, le groupe Énergie Renouvelable Environnement et Solidarité, a installé une zone artisanale électrifiée. Une innovation prometteuse pour le développement d'entreprises en milieu rural sur le continent. Les explications de Grégoire Gailly.
On a une installation au niveau de Conseguela avec des batteries qui permettent de stocker cette énergie et de travailler justement la journée quand il y a du soleil. Même en saison des pluies, on peut travailler. Et on peut travailler la nuit grâce notamment au stockage dans les batteries et le cas échéant au groupe thermique qui permet quand même de produire l'énergie à toute heure.
Donc la difficulté, c'est que ces batteries, c'est ça qui coûte cher en fait.
Oui, aujourd'hui dans les centrales solaires, le plus cher, c'est pas tant de produire l'énergie avec des panneaux, c'est bien de la stocker. Et donc il faut aussi entretenir ces batteries, les mettre dans des conditions acceptables pour qu'elles durent longtemps. Donc on a investi dans un bâtiment bioclimatique pour avoir plus de fraîcheur et on essaye aussi de pas trop les utiliser les batteries. Donc quand on voit qu'elles commencent à baisser de charge, on peut faire démarrer le groupe électrogène qui vient en complément de l'énergie solaire.
groupe électrogène, on se dit « Ah bon, alors il y a des énergies fossiles ?»
Non, c'est ça qui est justement intéressant, c'est qu'on travaille avec de l'huile de jatropha produite localement. On a une unité de transformation d'huile sur place qui s'approvisionne en graines dans les villages de la zone de Conseguela et de Diédougou. Et donc on a 300-400 paysans qui vendent des graines, qui sont ensuite transformées en huile pour le moteur et en tourteau pour l'agriculture écologique en engrais organique.
Alors le jatropha qui n'est pas planté dans les champs hein.
Non, c'est pas une grande culture de rentre, ça remplacera pas le coton. C'est une culture qui est plantée en agroforesterie, plutôt en haies vives autour des champs de coton ou des champs maraîchers, et du coup qui vient s'intégrer complètement dans le système agricole de l'exploitation.
Et du coup, vous avez créé combien d'emplois ?
Alors c'est pas nous qui les avons créés, c'est les entreprises ont créé 65 emplois, 30 emplois directs et 35 emplois indirects avec la boulangerie, avec les femmes qui vendent les jus, avec la couveuse et les autres activités. Il y a un petit restaurant aussi évidemment. Ça fait quand même 65 emplois en une année, donc on espère évidemment que ça va s'amplifier dans les années à venir.
J'imagine que les habitants autour ont eux aussi envie d'avoir accès à l'énergie ?
Oui, les habitants de la ville, évidemment, au niveau domestique, aimeraient bien avoir l'électricité. Ils ont la possibilité de s'abonner chez Yélène Coural, l'opérateur rural d'électrification de la zone, et qui, lui, loue des kits pour les petites villes et qui gère des centrales dans les villes un peu plus grandes. On travaille d'ailleurs beaucoup avec eux. Et même dans les villes où il y a déjà des centrales, on va aussi initier des zones d'activité électrifiées pour permettre aux entreprises de bénéficier de cette électricité.
Alors on peut se dire 11 entreprises, 65 emplois, c'est bien, mais à l'échelle du défi de l'accès à l'énergie en Afrique, c'est une goutte d'eau. Est-ce que ce que vous avez créé là est réplicable ?
Oui, cette initiative, elle a vocation justement à mieux comprendre la réalité des besoins des entreprises et comment trouver la solution. Les solutions techniques, elles existent. Aujourd'hui, le grand enjeu, c'est l'organisation, c'est la formation des ressources humaines pour être en capacité de gérer ces installations. Mais c'est réplicable. On a commencé à travailler sur une autre zone, justement à Koury, à quelques kilomètres de là. Et on est sollicité par une entreprise, Jatropha Mali Initiative, qui est dans la zone de Kita et qui souhaite aussi mettre en place ce type d'installation. On travaille aussi au Mali, au Bénin, au Sénégal. On a l'envie que des privés s'intéressent à ça. Mais pour que des privés s'y intéressent, il faut avoir un plan d'affaires rentable. Et il faut aussi un soutien de l'État pour favoriser l'installation de ce type d'infrastructure économique.
Est-ce que les dynamiques initiées par l'accord de Paris ou par ce qui s'est discuté ici à la COP22 à Marrakech, ça appuie votre action ? Est-ce que vous sentez que ça a un effet sur votre action ?
Oui, évidemment, le GRS intervient depuis 40 ans et pendant 30 ans, on s'est battu pour que les gens comprennent que les énergies renouvelables étaient une solution possible. Et aujourd'hui, on essaye de montrer comment faire et comment apporter des solutions, y compris au niveau local. Le renouvelable, c'est toujours de l'activité localisée. C'est ça qui est très intéressant. Et on a besoin du soutien de ce type d'événement, de ce type d'accord. Ça mobilise les États et les privés ensemble. Et c'est ça qui est intéressant. Par contre, on voit bien que faire des infrastructures de développement en milieu rural, c'est pas automatiquement rentable. Donc il faut aussi que ça s'inscrive dans des politiques publiques claires. Et c'est en ça que ces rencontres sont intéressantes. C'est pour ça que moi, je fais le déplacement à Marrakech. C'est pour continuer à sensibiliser. Il y a des choses simples et il y en a d'autres qui sont plus complexes. Il faut savoir dire la vérité et savoir que c'est pas si facile que ça d'y arriver. Sinon, on l'aurait fait depuis longtemps.
Mais est-ce que vous avez l'impression quand même que, par exemple, au niveau des gouvernements, l'accord de Paris a eu un impact ?
Oui, c'est sûr. C'est vrai que ça nous met à l'aise. On est en contact permanent avec les cadres des ministères. Ils sont très sensibilisés au sujet. Et de sentir cette dynamique, ça les encourage. Ça encourage les gens qui vont dans ce sens-là. Et ça décourage les projets un peu passéistes, un peu obsolètes. Et ça permet quand même de mettre en avant les sujets. Ça règle pas tout, évidemment. Il faut trouver l'équilibre entre l'action de terrain et les discussions internationales. Aujourd'hui, la difficulté, c'est qu'on a des projets assez rentables en termes d'injection d'énergie dans les grands réseaux, production d'énergie solaire. On a des projets assez rentables dans la diffusion des lampes dans les zones rurales. Mais toute la partie intermédiaire de production d'énergie pour les entreprises en milieu rural, c'est beaucoup plus difficile de trouver la rentabilité pure et dure. Et c'est en ça qu'il faut des politiques publiques qui trouvent l'équilibre entre subventions et investissements privés.
Merci.
Merci à vous.
Pour nous écrire, c'estpasduvent@rfi.fr.
Le développement des énergies renouvelables sur le continent africain va permettre à des millions de personnes non seulement de sortir du noir, mais aussi de la pauvreté. Or, moins l'on est pauvre, plus on a les moyens de faire face aux conséquences des changements climatiques. Une spirale cynique évaluée par un rapport de la Banque mondiale publié cette semaine. Stéphane Algat est l'un des auteurs.
On est parti du constat que quand on utilise les pertes matérielles exprimées en dollars pour mesurer les conséquences des catastrophes, on ne voit pas les gens qui ne possèdent rien et qui gagnent très peu. Et donc on manque complètement toutes les conséquences sur les plus pauvres. Et donc on a créé une mesure différente qui tient compte non seulement des pertes matérielles, mais aussi des conséquences qu'elles ont sur la consommation des gens, en différenciant entre les plus pauvres et les moins pauvres, et en regardant si les gens qui perdent de la consommation perdent de la consommation de biens traditionnels normaux, ou bien s'ils perdent de la consommation de nourriture, d'éducation pour leurs enfants, voire de soins de santé, et des conséquences de ces baisses de consommation qui sont évidemment très différentes pour des gens pauvres très près du seuil de survie et des gens plus riches qui peuvent couper sur des consommations de luxe.
Et comment est-ce que vous avez fait pour évaluer l'impact des changements climatiques sur les plus pauvres ?
On est parti d'évaluations traditionnelles du risque qui regardent les pertes matérielles et on a regardé en séparant les pauvres et les gens moins pauvres dans chacun des 117 pays qu'on a étudiés, comment ces pertes matérielles se traduisent en perte de revenus. Donc quelqu'un qui a un troupeau avec 10 chèvres qui en perd 5 va perdre la moitié de son revenu. Et donc ça dépend un peu de si les revenus sont diversifiés ou s'ils sont très concentrés. Si les gens reçoivent aussi une aide de l'État. Dans certains pays, les pauvres reçoivent plus de 50% de leurs revenus de l'État. Et aussi de si les gens sont assurés, s'ils ont des économies qu'ils peuvent utiliser quand ils perdent du revenu, et s'ils sont protégés par soit de l'assurance, soit des systèmes qui viennent répondre avec les gouvernements qui remplacent les revenus perdus. Et donc on regarde comment ça se traduit en consommation. Et après, on valorise les pertes de consommation différemment pour un pauvre qui perd des biens essentiels, des biens de base, et pour les moins pauvres. Et il y a un point sur lequel on insiste beaucoup dans le rapport, même si c'est très difficile à chiffrer, c'est l'impact sur les enfants, qui sont vraiment les premières victimes, et surtout qui sont les victimes de conséquences qui sont non réversibles. Un enfant à qui on ne donne pas assez à manger quand il a moins de 2 ans va avoir un développement ralenti, pas seulement physiquement, comme on pense souvent, mais aussi en termes intellectuels. Et on voit 20 ans après en Éthiopie que le revenu et la richesse des gens qui ont été touchés avant 2 ans par la sécheresse dans les années 80 est inférieure aux autres. Il y a aussi des enfants qui sont sortis de l'école. Au Nicaragua, après le cyclone en 2005, le travail des enfants a augmenté de 7%. Et on a des chiffres au Mexique qui nous montrent que quand les enfants sont retirés de l'école, dans 30% des cas, ils n'y retournent pas et ils restent travailler. Donc pour les enfants, ce n'est pas un choc qui va passer, on a un an pour reconstruire. Non, c'est quelque chose qui va les influencer pour toute leur vie. Et ça veut dire que les pauvres vont transmettre leur pauvreté à leurs enfants qui n'auront pas eu une chance de s'en sortir.
Et du coup, ça donne quoi en termes de chiffres, même s'il faut toujours prendre les chiffres avec des pincettes, on va dire en ordre de grandeur, quel est le coût des conséquences des changements climatiques aujourd'hui dans le monde ?
Alors, à partir d'une évaluation des pertes matérielles moyennes dans le temps d'à peu près 300 milliards de dollars par an, on trouve que quand on ajoute et qu'on tient mieux compte de la situation des pauvres, on augmente de 60% pour atteindre à peu près 520 milliards de dollars par an. Et on regarde aussi l'impact sur le nombre de personnes dans la pauvreté. Et on trouve que si l'année prochaine, on pouvait de manière magique éviter toutes les catastrophes naturelles, il y aurait 26 millions de personnes en moins qui seraient dans l'extrême pauvreté. Donc on parle de quelque chose qui est important pour la pauvreté. Quand on réduit les risques naturels, on arrive par là à réduire de beaucoup la pauvreté également.
C'est-à-dire qu'à travers ce rapport et ses potentielles applications, on se rend compte que la dynamique de lutte contre les changements climatiques, ce n'est pas uniquement diminuer les émissions de gaz à effet de serre, c'est aussi aider les plus pauvres à s'adapter aux conséquences, une priorité qui a souvent été reléguée au second plan.
On parle beaucoup aujourd'hui de savoir si les politiques de réduction des émissions sont suffisantes pour atteindre l'objectif de l'accord de Paris, c'est 2 degrés, voire 1,5 degré. On veut rappeler aussi qu'il y a une ambition dans l'accord de Paris sur l'adaptation et la résilience et qu'il faut se poser les mêmes questions. Est-ce qu'on fait assez dans ce domaine ? Et on essaye autant que possible d'utiliser la dynamique qui a lieu autour de l'accord de Paris, le fait que les pays préparent ces contributions nationales expliquant ce qu'ils vont faire pour le changement climatique, pour essayer de pousser aussi cet autre agenda, cet agenda de la résilience, et notamment pour les plus pauvres, parce qu'on est convaincu que la réduction de la pauvreté, voire l'éradication de la pauvreté, qui est un objectif de la communauté internationale, va demander de beaucoup mieux s'occuper des gens touchés par les catastrophes naturelles. Parce qu'aujourd'hui, on travaille beaucoup à ce que les gens sortent de la pauvreté. Ce n'est pas pour qu'ils y retombent quelques années plus tard suite à une catastrophe. Donc il y a aussi ces filets de sécurité sociaux, tous ces outils liés à l'assurance. C'est aussi important pour que quand on réduit la pauvreté, on la réduise pour de bon.
Et ça veut dire que s'occuper des pauvres doit devenir une priorité pour l'économie des pays, ce qui aujourd'hui est loin d'être le cas.
Alors on est très conscient de l'économie politique de la gestion des risques. On a des chiffres, par exemple en Thaïlande, après les inondations en 2010, où les gens de la classe moyenne ont touché 2 à 3 fois plus d'aide que les plus pauvres. Il y a une explication. D'abord, des pays touchés par une catastrophe naturelle veulent relancer leur économie très vite, donc ils ont tendance à aller là où il y a l'économie la plus active. Et puis, la classe moyenne, elle a une voix, elle a un poids politique que n'ont pas les plus pauvres. D'où l'intérêt d'abord d'avoir des mécanismes comme on a en Ouganda ou au Kenya qui sont transparents et automatiques pour éviter d'avoir à poser le débat public en période de crise. Dans le rapport, on fait aussi l'argument que quand on propose ces instruments pour aider les plus pauvres, c'est évidemment un impératif moral d'aider des pauvres et des vulnérables quand ils sont touchés par un choc. Mais même pour le contribuable le plus égoïste, il y a aussi une question d'efficacité. Si vous aidez des gens touchés par une catastrophe naturelle juste après le choc et que vous évitez tous ces impacts secondaires dont je parlais, c'est beaucoup plus efficace, ça coûte beaucoup moins cher. Je dois dire qu'au Kenya cet hiver, on n'a pas vu la crise humanitaire qu'on avait pu voir pendant d'autres sécheresses dans le passé. On n'a pas vu ces images de gens mourant de faim à la télé. L'une des raisons, c'est que le pays est mieux équipé que par le passé pour intervenir rapidement et amener l'argent dans la poche des gens concernés très très vite. On parle très très peu des crises qu'on sait éviter. Je pense que c'est important de reconnaître qu'il y a des progrès qui ont été faits et en parler pour que des gens dans d'autres pays se disent ils ont évité une crise humanitaire grâce à ça. Peut-être que nous aussi, maintenant, alors qu'on n'est pas touché, il faut qu'on commence à se préparer et à avoir ces outils pour le jour où on en aura besoin.
Et il est urgent que la lutte contre les changements climatiques, qui a été affirmée pendant 2 semaines ici à Marrakech, se traduise par des actions concrètes pour les plus pauvres, mais aussi pour l'ensemble de l'humanité. Cela a commencé, nos modes de vie sont déjà en train de changer. Nous en parlerons demain avec nos invités. D'ici là, prenez soin de vous et des vôtres. Et à demain, même planète, même heure.
Appelez-nous, exprimez-vous.